chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors de notre dernier épisode, nous avons vécu avec vos yeux d'adolescent l'horreur des pogroms qui marqueront de toute façon à tout jamais votre existence. Ainsi d'ailleurs que vos amis qui ont vécu aussi cette période-là. Vous êtes à l'époque un artisan, le chef des artisans, et vous creusez à longueur de journée. Vous arrivez, vous nous l'avez dit, à négocier avec la personne qui fait partie de l'armée, hein, bien sûr, qui sous les ordres de qui vous travaillez. Vous arrivez même à voler quelques heures de liberté pour vous et pour vos compagnons.
Vous le dites également, l'armée roumaine entre en guerre aux côtés
de l'Allemagne et contre les soviétiques. Et vous, justement, vous êtes communiste.
Oui.
Parce qu'on se rappelle donc que vous avez rencontré, il y a quelques épisodes de cela maintenant, un jeune homme que vous avez présenté, une de vos amies Esther, ce jeune homme que vous appelez Kappa, parce qu'il change de nom à chaque fois qu'il vous rencontre. Et là, eh bien, il vous recontacte, vous formez alors une cellule, et Kappa vous sert de guide.
Oui, alors, je ne sais pas comment il est apparu. Enfin, le fait est qu'il est apparu, je pense, l'été de 41. Et à ce moment-là, on forme ce qu'on appelait dans le langage communiste une cellule. On était quatre personnes, dont deux dont je ne me souviens pas aujourd'hui. J'ai comme ça des vagues souvenirs. Mais dans laquelle se trouvait un garçon qui était au lycée industriel, qui s'appelait Crăciun, qui était d'origine, si on peut dire, roumaine, ethniquement. Et avec qui nous avons lié une amitié qui a duré à peu près jusqu'à mon départ. Et donc on commence à avoir cette vie doublement clandestine. Déjà on était hors la loi, mais la cellule avait une sorte de vie clandestine puisque nous ne connaissions pas en principe le nom de famille des autres. Nous n'avions pas le droit de nous voir en dehors. Mais, si on peut dire, la vie de cette cellule, c'était d'abord une sorte de travail idéologique. Tantôt, on donnait des affiches à coller ou à jeter dans la rue. Et puis, d'autres choses de ce genre. Je ne dis pas que j'ai fait quelque chose d'héroïque du point de vue de l'action elle-même. Mais rétrospectivement, c'était une chose très dangereuse de faire partie d'une cellule et par la suite, je me suis senti coupable par rapport à ma Tantiana, à mon cousin, parce que si quelque chose était arrivé, à ce moment-là, toute la famille aurait eu à en souffrir.
Le dictateur Antonescu, pardon, annonce, lui, la purification ethnique, ce sont les termes mêmes qu'il emploie. Il l'annonce pour Bukovine, on en a déjà parlé ensemble, et en Bessarabie.
La Bessarabie. Alors, ça commence la période des déportations, qui était une des périodes les plus douloureuses, parce que tout le monde avait quelqu'un, d'abord dans ses provinces. Ensuite, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et c'est passé le plus mal possible, puisque une grande partie des gens ont été tués, pillés, etc., avant d'arriver dans cette province qui s'appelle la Transnistrie, au-delà du Niestre, où on a créé une sorte de gouvernement roumain, une fois la partie russe conquise par l'armée roumaine, et où les juifs ont été installés, entre guillemets, dans des camps dans des villes de concentration, si vous voulez. Et je crois qu'au cours de ces déportations, il y a eu quand même environ 200 000 personnes tuées. Je ne parle pas de ceux qui sont morts, etc., par la suite. Dont, par exemple, les parents de Paul Celan, qui sont morts en déportation. Il y a eu les enfants qui ont commencé une sorte de vie errante dans les forêts. Et puis, paradoxalement, aussi la corruption. Et la déportation se fait de manière aussi tellement sauvage que les Allemands ont arrêté l'armée roumaine parce qu'ils voulaient le faire de manière beaucoup plus systématique. C'était le pillage, le viol, la tuerie des populations en cours de déplacement. Et quand ils sont arrivés là-bas en Transnistrie, je ne me souviens plus, mais on leur donnait des nourritures qui avaient des effets de paralysie. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, ce qu'on leur donnait. Et donc, il y a eu cette destruction lente des Juifs de Bessarabie et des Juifs de Bukovine. Je pense que la plupart ont disparu au cours de ces déportations. Et ça a été, je sais pas, jusqu'en 42, j'ai beaucoup souffert de ça, parce que j'ai pensé à tous les amis, puis j'ai pensé surtout au Tzoudik, à Esther. Et je... Ça a été une de mes années noires de la vie, 42.
Le port de l'étoile jaune date de cette période.
Non, on ne portait pas. Il y a eu l'idée de nous imposer le port de l'étoile jaune, mais finalement, on ne l'a pas porté, l'étoile jaune. Mais il n'était pas nécessaire de porter de l'étoile jaune pour voir où on était, d'ailleurs.
Alors, l'amitié, notamment avec Izou, on en a parlé, mais aussi avec Krațiun. Oui. Je ne sais pas si je prononce bien.
En roumain, c'est Krațiun.
Vous aide à surmonter cette période tellement étrange et difficile, et vous parlez très très bien de l'amitié, parce que vous en parlez comme de l'amour.
Eh bien, l'amitié est une passion. Une passion qui m'est toujours restée. Et donc, avec Isidore Izou et Krațiun, c'était un rapport de passion, pas seulement de passion que nous avions les uns pour l'autre, mais aussi de passion pour les idées que nous partagions. Et c'était quand même, nous étions devenus nécessaires. Je veux dire, par exemple, Izou, je pense à un moment donné, je voyais tous les jours, hein. Et puis c'est une amitié qui avec Krațiun est restée à peu près jusqu'au moment où je suis parti. Et puis avec Lizo, bon, c'est la vie tout entière qui était cette amitié où il y avait de la jalousie, la rivalité, et en même temps une sorte de lien indissoluble.
Он стоит к стене прижатый и ловит чуть-чуть горбатый и поет на языке родном. А Голденахт, Анны Бельдиге, Финстермати, Штайнхайнгла, твоя тонких цихари, он рэгншит темного вант, а кошика Голдерина. Друзья, купите папиросы. Häuschen will ich missen, wie
dans ce contexte hors norme, vous découvrez de nouveaux auteurs français, car ce qui est fou complètement, c'est que la culture est toujours présente, elle est omniprésente, elle semble même être une sorte de pilier. Alors Alain Fournier, Guy de Maupassant, Flaubert, Madame Bovary, vous nous le direz peut-être, fut pour vous une sorte de pince-somme. Vous découvrez également Valérie, Le vent se lève, il faut tenter de vivre.
Vous savez, ça, c'est la chanson de la pauvreté juive. Et à ce moment-là, on n'a pas connu que la déportation, que le travail forcé, mais la pauvreté, la faim, la misère qui s'installe aussi sur cette communauté. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que de lire, je veux dire, dans le temps libre, avec des amis? C'était une sorte d'évasion, finalement, mais une évasion dans notre sens, pas comme on va au cinéma, etc., mais sortir son âme de cette place, enfin de cet enfer, comme ça, insidieux. Et alors lire était une manière de quitter Bucarest, hein, ou de quitter notre misère. Et d'abord, c'est la découverte. J'ai entendu le français, mais nous nous sommes mis à lire le français. C'était comme lorsque je me suis mis à lire l'hébreu, je le dis dans mon livre. Et en fait, une langue, c'était une manière de sortir de ça, hein, de cette vie. Et alors, effectivement, je me suis mis à lire Flaubert, je n'ai pas beaucoup aimé. Madame Bovary, ce n'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Mais je me suis mis à lire Valéry. Je me suis mis à lire Fournier. J'ai beaucoup aimé. C'est une chose qui m'a beaucoup touché. J'ai lu Romain Rolland.
Comment aviez-vous les livres?
Mais je les avais, les livres Parizeau. Mais Izou, comme il me rappelle toujours, me rappelle la semaine dernière, celui qui m'avait introduit dans le surréalisme, et il m'a fait lire Jarry, mais ça c'était plus tard. Et puis ça a été aussi la découverte de Proust. Proust a été, c'est une platitude de dire que c'était un grand écrivain, mais ce n'était pas tellement l'écrivain qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est plutôt l'homme qui m'a fait découvrir le fait qu'on pouvait vivre plusieurs vies. Et Balzac. Et donc, j'ai commencé petit à petit à habiter la littérature, par la littérature française, une autre histoire, une autre société. Et puis, plus tard, j'ai lu des auteurs plus légers qui m'ont fait vivre Paris, Morand, Monterland, qui m'ont fait connaître d'une certaine façon la France, Paris.
La philosophie est également très présente avec Nietzsche, avec Pascal, avec Spinoza.
Oui, Spinoza, c'est quand même l'auteur de base de la culture juive de l'Est. Hein. Tout le monde a lu Spinoza, c'était vraiment peut-être notre rabbi et notre rabbi laïque. Oui, bien sûr, j'ai commencé à lire les philosophes parce que nous étions des gens, comme je vous ai dit, sérieux, donc il fallait penser. Mais la découverte surprenante à ce moment-là pour moi, c'était Pascal, parce que Pascal était à la fois un penseur que je trouvais à la fois plus profond et plus léger que, par exemple, que lire Hegel ou que lire Spinoza. Nietzsche a été très important. Je pense, mais je ne sais pas pourquoi j'ai lu. Est-ce que c'était par une sorte de défi, puisque Nietzsche était à ce moment-là considéré comme un auteur fasciste. Mais j'ai découvert autre chose chez lui, cette force, cette, euh, cette force du regard au réel, cette pulsion à la création, cette passion. Justement, c'est un penseur qui est passionné en pensant, si on voulait. Et donc, c'est tout ce que je pouvais faire, ou travailler, ou lire. Et c'était en même temps ce qui nous unissait, nous, notre groupe d'amis. C'était la substance de notre vie de tous les jours.
Hiver 43-44, les troupes soviétiques approchent de la Bessarabie.
Oui, là, on commence à souffler parce que...
La roue tourne.
C'est-à-dire, mais Stalingrad, on ne s'est pas rendu compte immédiatement dans l'Ouest, mais je pense que Stalingrad, pour les gens de l'Est, était quand même un tournant. Et même les Roumains se sont rendus compte à Stalingrad, puisqu'ils ont battu jusqu'à Stalingrad que la guerre était perdue. Et donc, l'histoire commence à tourner à l'envers. Et les troupes russes s'arrête pendant plusieurs mois à une distance appréciable, mais proche de Paris, de Bucarest, pardon.
Le lapsus est beau.
Oui.
Nous parlerons dans l'épisode prochain, d'amour. Il ne s'agit pas d'amour qui vous concerne directement, mais de votre père, dont on n'a pas parlé depuis maintenant un certain temps, et on parle pour lui déjà d'un troisième mariage.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.